débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue, l'actualité économique du jour. On va commencer avec un peu de fact-checking. On n'a pas l'habitude, mais hier, bon, il y a une petite séquence dans l'émission, si vous étiez là, et Nathalie Janson m'écrivait frénétiquement sur Twitter pour essayer de remettre les pendules à l'heure, l'église au milieu du village. Alors comme elle est là, bah, on va bien mettre le clocher là où il faut. Le Sénat taxe Zucman. L'Assemblée avait dit oui en février. Bon, c'est le Sénat qui va se prononcer sur cette taxe qui vise les patrimoines de plus de 100 millions d'euros pour être sûr qu'il y a au moins 2% qui va tous les ans aux impôts. Ça devrait rapporter 20 milliards d'euros par an. 1800 foyers. Moi, je sais pas comment on fait 20 milliards avec 1800 foyers. Mais enfin, c'est l'idée de Gabriel Zucman qui est portée dans une proposition de loi par Eva Sass et Clémentine Autain, des écologistes. Bon, c'est clairement une taxe politique marquée à gauche avec l'idée que la fiscalité, c'est de la moralité. Après, ça adresse un sujet. Car il y a effectivement, dans une poignée d'ultra-riches en France, une structure de revenus et une structure de patrimoine qui conduit, avec le phénomène des holdings familiaux, à avoir, il est vrai, proportionnellement, un taux d'imposition qui est inférieur à peu près de moitié à ce que serait le taux d'imposition si aucun de ces dispositifs n'existait. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère. Le dollar, la place du dollar dans le monde. Est-ce que l'euro est devant une opportunité historique face au dollar? Et je vous ressort cette formule de François Villeroy de Gallo qui a considéré que cette guerre commerciale, eh bien, c'était le moment de l'Europe. Alors on s'intéressera à ce sujet-là. La Banque de France, qui est donc pilotée par François Villeroy de Gallo, a révisé à la baisse la croissance de la France à nouveau. On est à 0,6. Ça commence à sentir le pâté, hein, en termes de recettes. Et il met aussi en garde contre un risque de pression de marché par rapport à nos besoins de dépenses publiques et les attentes de nos prêteurs. La fameuse idée qu'un incident de crédit pourrait ne pas épargner un pays comme le nôtre. Et Abeline Montchalin qui avait brandi la menace d'une mise sous tutelle par le FMI. Bonjour Nathalie Janson.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, professeur à Neoma Business School. Philippe Trénard, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes, et Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance banlieue. On fera un petit point concrétude, hein, avant de commencer. Ouais. L'économie réelle, que donne-t-elle? J'aime bien toujours donner la parole aux gens qui signent des bulletins de salaire. C'est quoi, vous faites venir des économistes académiques, ils sont bourrés d'idées, mais ils signent pas beaucoup de bulletins de salaire.
Non.
Mais les deux sont nécessaires. Bon. Alors, hier, je sais pas si vous étiez avec nous, il y avait Dany Lang, il y avait Guillaume Dard, il y avait Jean-Pierre Petit, autant dire un casting quand même taillé sur mesure pour les grandes questions de macrofinance, banque centrale. Et à un moment, l'un des invités nous affirme que la Réserve fédérale, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, accorde la garantie à l'ensemble des prêteurs du monde entier que les T-bonds américains seront honorés quoi qu'il arrive. Et là, je me suis regardé avec Guillaume, avec Jean-Pierre. Il y a eu un grand moment de doute parce qu'il était très très affirmatif. Et Nathalie écoutait.
Voilà.
Et donc, si on essaye de remettre l'église au milieu du village sur la position de la Banque centrale, son rôle par rapport à l'émission de titres souverains, ça vous inspire quelle réaction?
Alors effectivement, j'étais très étonnée puisque de ce que j'avais pu apprendre et puis de mes souvenirs, donc j'ai revérifié quand même, parce qu'on sait jamais, on a peut-être des mauvais souvenirs parfois, mais la grande différence à l'époque du franc, c'était que la Banque de France avait eu ce droit d'acheter directement les titres de souverain en fait de l'État français et pendant de nombreuses années.
Absolument,
et c'est
ouais.
Pour ça qu'on disait que la Banque de France n'était pas indépendante et pouvait sauver l'État français, donc elle pouvait être jusqu'à ce que en 73 on arrête, mais c'était moins facile, et c'était ce qui la différenciait de nombreuses banques centrales dont la Fed, puisque dans le Federal Reserve Act de 1913, c'est interdit tout court pour la banque de la Réserve fédérale d'acheter en fait des titres directement sur le marché
à
primaire.
L'émission. Marché primaire.
Donc, elle peut déjà pas, effectivement, être ce secours en dernier ressort directement. Donc, je ne dis pas que le système qui consiste à les acheter auprès des banques commerciales n'est pas un peu hypocrite.
C'était le quantitative easing, ça. Voilà, c'était d'une hypocrisie. C'est la même chose qui ne dit pas son nom.
Mais en tout cas, sur le plan technique, elle n'a pas le droit. Et d'une, d'acheter directement sur le marché primaire. Il y a une seule exception. Il est vrai, j'ai donc j'ai regardé un peu plus en détail, mais qui me semble pas compromettre quand même le rôle de prêteur, enfin qui ne semble pas aller dans le sens du prêteur en dernier ressort de l'État, puisqu'en fait elle aurait le droit d'acheter des bons du Trésor à un jour. Voilà, dans des conditions très particulières.
Bout du trésor. Hein.
Voilà, donc moi, je n'ai pas d'exemple, honnêtement, je ne me rappelle pas d'épisode, il en a peut-être existé, mais en tout cas, il est clair, puisque aux États-Unis, on a le marché des bons du trésor est animé par ce qu'on appelle les primary dealers, qui sont une liste de banques d'investissement qui sont eux, qui sont les premiers acheteurs des obligations américaines. Donc c'est pour ça que je trouvais le propos effectivement de mon collègue surprenant, puisque étant donné que c'est eux les intermédiaires qu'on ne peut pas éviter, j'étais très étonnée que la Fed puisse intervenir. Ouais. Et puis effectivement, elle n'a pas le droit de rembourser non plus directement une dette. Là, ça fait partie des autres paragraphes. Parce qu'effectivement, aux États-Unis, on a quand même cette idée, c'est quand même un État fédéral, et en fait, on ne voulait pas que la Réserve fédérale, quand elle a été créée, on ne voulait certainement pas qu'elle se retrouve aux manettes de la gestion de la dette.
Conclusion de tout ça, personne n'est à l'abri d'un risque de défaut. Voilà. Personne n'est à l'abri d'un risque de défaut.
En fait, c'est la désirabilité de la détention de la dette qui est en jeu.
Économie réelle, où en sommes-nous ?
Séquence,
émotion. Laurent Wonski.
Bien, on ne s'ennuie pas, en tout cas, en ce moment.
On ne s'ennuie pas.
Ah non, ça, on ne s'ennuie pas. Vraiment... On ne s'ennuie pas. Alors, bon, moi, je vais vous révéler des éléments avant qu'ils soient mesurés par l'INSEE.
Oui, bien sûr. Ben oui, évidemment.
Je vous confirme qu'il y a une reprise du chômage en accéléré, parce que aujourd'hui, nous sommes dans une position où nous continuons à recruter. Et je peux vous dire que là, aujourd'hui, vous mettez un petit vermisseau au bout de l'hameçon, vous avez 10 poissons qui tournent autour. Hein. Et là, c'est un changement de paradigme très important, parce que pour des métiers en souffrance, il fallait aller débaucher les candidats dans les entreprises. Là, il n'y a plus besoin. Hein. Donc, ça, ce n'est pas bon signe. Et quand j'échange avec mes camarades chefs d'entreprise qui aussi recrutent, c'est la même chose. Donc déjà, reprise du chômage. Deuxième sujet, en dehors de l'environnement chaotique et des lois qui changent toutes les semaines, voire toutes les 24 heures outre-Atlantique, je pense qu'il y a un vrai problème de financement de BFR. C'est-à-dire, en clair, les banques, aujourd'hui, ne veulent pas prêter à court terme, ce qui fait que tout ce qui est mesure de découvert est réduit à sa plus simple expression, et ça, on le voit parce qu'il n'y a plus le stock nulle part. C'est-à-dire que, ce qui est très étonnant, c'est-à-dire on n'en parle absolument pas dans les médias, on est revenu à une situation post-Covid. Si vous vous en souvenez, après le Covid, il y avait des pénuries. Alors, on vous disait, oui, c'est normal, il faut reconstituer les stocks. Sauf que là, aujourd'hui, comme vous avez énormément de banques qui ne prêtent pas à des sociétés pour acheter de la matière, pour faire de l'avance, eh bien, en clair, c'est du juste à temps. Sauf que c'est du juste à temps qui prend, en clair, parfois 6, 8, 12 semaines. Donc, on sent, si vous voulez, qu'à ce niveau-là, il y a vraiment un blocage. Et ça, dans un contexte où on est dans l'immédiateté suprême. C'est-à-dire que l'incertitude dont on parle, que vous pouvez voir, par exemple, dans le cours de l'or, on le retrouve dans le monde des affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients ne signent que quand ils ont en face le bon de commande, je dirais, avec la triple garantie. Donc, ils prennent la décision tout de suite, il faut fournir pour avant-avant-hier, dans un contexte où personne n'a de stock. Donc, nous, industriels, je dois dire qu'en ce moment, on ne s'ennuie absolument pas par rapport à ça, ce qui fait que nous devons porter un niveau de stock qui est complètement anormal. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est constitué au fil du temps une pelote de laine et des fonds propres relativement importants, parce que l'histoire, je l'ai déjà vécue avec les sous-titres 6 ou 7 fois. Dans les moments difficiles, il n'y a plus un banquier. Je ne reproche rien à personne. C'est juste un constat. Donc, si vous voulez traverser les crises, il vaut mieux avoir une sacrée pelote de laine. Puis enfin, je dirais que ce qui se passe actuellement...
Et pas trop de dettes, d'ailleurs.
Moi, j'ai zéro dette. Alors, si vous voulez, moi, j'en suis fier. Moi, je suis un pur produit de l'école de Chicago où on nous a appris qu'il fallait s'endetter au maximum. Bon, moi, j'ai fait exactement l'inverse. Donc, ça fait de moi un mauvais élève, un mauvais disciple. Sauf que moi, je suis encore là. Bon. La dernière chose, je trouve qu'on vit un moment assez schizophrénique. C'est-à-dire que si vous mettez de côté les affres assez cinématographiques ou hollywoodiennes de Donald Trump, je veux dire que les États-Unis font une offensive massive pour essayer d'attirer les entreprises, les talents, les investissements et les métiers à forte valeur ajoutée dont j'appartiens. Et au même moment... Je dirais, on vous ressort au niveau très hexagonal, je veux dire, des espèces d'épouvantails de l'ISF, des tue-l'amour pas possible. Donc, on est quand même dans une période un peu schizophrénique. Donc, j'espère que les choses vont retomber là où elles doivent retomber. Mais ça pour dire, on ne s'ennuie pas en ce moment, mon cher Nicolas.
Joli. Joli tableau de l'économie réelle. Alors, ben justement, vous avez commencé les épouvantails, la schizophrénie, les trucs franco-français. Je vais me tourner vers Philippe Trédard, qui a un déficit de temps de parole. Avant d'évoquer ce que Bercy prépare pour 2026, qui n'est pas la taxe Zucman, je vous redonne le schéma et l'argument principal de Gabriel Zucman. Tout patrimoine supérieur à 100 millions d'euros se verra taxé de manière à avoir la certitude qu'au moins 2% de cette somme va au fisc tous les ans. Ça doit rapporter 20 milliards d'euros par an. A priori, ça cible 1800 foyers, les plus riches du pays. Et ça ferait 11 millions d'euros en moyenne par foyer. Et le grand argument de Gabriel Zucman est de dire que ceux qui brandissent le risque de l'exil fiscal en font trop, parce que cet exil fiscal est toujours mis en avant, mais c'est un épiphénomène, il n'y a presque rien. Et il dit, de toute façon, les 2% dont je parle sont totalement indolores, car ces patrimoines de 100 millions d'euros enregistrent un rendement annuel de 5 à 6. Donc sur 5, 6, vous en prenez 2, il en reste assez pour respirer. Et il est soutenu par quelques stars de l'économie française, dont Olivier Blanchard, qui a dit, bon, quand même, pas 2, 1%. Et également Jean Pisani-Ferry, qui fut l'un des artisans du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. Bon, c'est passé. Alors, a priori, on est un peu dans le symbole, parce que ça n'aboutira pas dans le budget 2026. Ça vous inspire quoi, Philippe Trénard? Le retour des épouvantails?
Oui, je crois que c'est effectivement un peu le retour des épouvantails.
Pardon, j'ajoute juste que l'outil professionnel est inclus dans la taxe Zucman. L'outil professionnel.
Oui, absolument.
Voilà, c'est la
ça,
clé, hein.
C'est ça, d'ailleurs, qui est dramatique. On est quand même sur des calculs fiscaux qui sont purement illusoires. C'est-à-dire, on commence par oublier de dire que ces fameux revenus ont déjà subi, à ma connaissance, un prélèvement de l'impôt sur les sociétés qui est à 25%. Donc dire, ah, au fait, d'ailleurs, celui-ci, on le compte pas, il compte pour zéro, c'est une première surprise. Alors, bien évidemment, si je comptais ce 25%, le 2%, il est probablement dépassé, ou je n'ai pas fait les calculs. Deuxièmement, 2%, c'est énorme. Le rendement, normalement, d'une action, on va prendre des actions, c'est 10% en France. Donc c'est pas mal. Sur ces 10%, vous avez quand même 3,5% qui sont de la prime de risque. C'est-à-dire qui vous rémunèrent pour le cas où vous auriez zéro. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent in fine avec une entreprise en faillite, une entreprise qui ne paie plus de dividendes pendant 10 ans, etc. Donc en réalité, la vraie création de valeur, elle est sur 6,5%. D'ailleurs, Zucman parle de 5 à 6%. Donc vous ajoutez les 25% sur le 6 à 5%, vous ajoutez les 2% sur le capital, ça devient absolument énorme. Grosso modo, il va rester entre 1% ou quelque chose comme ça. Alors, le vrai problème, comme l'on dit, c'est sur des gros patrimoines. C'est gentil, les gros patrimoines, mais nous sommes encore dans un système capitaliste. C'est-à-dire, oui, où associé au gros patrimoine est associé un investissement. Et les investissements dans la tech ne sont pas faits par des gens, par des familles, des gens qui gagnent le SMIC. Ils sont faits, dans l'ensemble, par des gros patrimoines. Nous avons besoin d'investir dans la tech, et là, et d'avoir plus de productivité, plus d'investissement et plus de productivité, et là, nous n'en aurons pas. Dernier point, si vous regardez les simulations, tout ça est censé nous réduire notre déficit. C'est absolument charmant.
160 milliards en 25.
Voilà. Déficit, hein. Alors, quel est l'effet? Vous prenez un modèle très simple, le modèle NIGEM, qui est la matrice, modèle macroéconomique NIGEM, qui est la matrice du modèle de l'OCDE, du modèle du FMI, du modèle de la France, du modèle de la Banque d'Angleterre, etc. Qu'est-ce qu'il vous dit si vous prenez une semblable mesure? Il vous dit que votre investissement va chuter dramatiquement, il va chuter de l'ordre de 10 à 15%, c'est-à-dire que vous allez perdre plusieurs points de croissance, et conséquence de cela, c'est que vous allez voir votre dette publique augmenter, parce que les recettes, bien sûr, publiques vont perdre. Donc ce n'est absolument pas, il faut insister là-dessus, c'est un moyen de se satisfaire politiquement, ce n'est pas un moyen de maîtriser nos finances publiques.
Donc, ce que l'on gagnerait d'un côté, on le perdrait
voilà,
de l'autre.
Nous tuons la croissance, nous tuons la productivité, et nous ne résolvons pas nos problèmes de finances publiques, au contraire, nous les aggravons.
Oui, alors Nathalie, Laurent, par rapport à ça, ou alors je passe directement à l'idée de Bercy pour 26, je ne sais pas. Il a à peu près tout dit, là.
Oui, oui, de toute façon, oui. En plus, il y a la CSG en passant, quoi.
Oui, 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 payé. Enfin, bon,
c'est, moi, je trouve ça très triste. On en revient toujours, quand même, en France, aux mêmes recettes. C'est terrifiant. Enfin, c'est ce que disait Laurent Wonski juste avant, quoi. On ressort des épouvantails. On ne bouge pas, alors que de l'autre côté, il y a de la tech qui bouge, il faut de l'argent, et nous, on en est toujours là, quoi. Enfin, c'est absolument ahurissant quand on sait qu'on n'a pas de quoi financer le risque. On a très peu d'argent qui circule sur le marché financier. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais Laurent Wonski l'a dit aussi, les banques ne prêtent pas quand il y a du risque. Donc, je ne sais pas. Enfin, je suis atterrée, en fait, de voir qu'on en est toujours à ce point-là.
Je ne savais pas que Nathalie Janson était économiste atterrée. non, mais ce qui me frappe, c'est vrai que la séquence budgétaire qui est quand même semi-ouverte. Faites-vous, les seuls trucs concrets qui ont un peu filtré, c'est que de la fiscalité.
Exactement.
Le dernier truc, on en dira un mot, l'emploi à domicile, c'est la dernière. On donne l'impression qu'en baissant la dépense fiscale, c'est pas de l'impôt. Mais bien sûr que si, c'est de l'impôt. Je voyais que vous vouliez réagir avant. Oui. Je fais 26 après, parce que c'est pas pareil. Hein.
Oui.
Laurent Wonski.
Alors, si vous voulez, il faut pas oublier une chose, c'est que l'ISF, c'est l'incitation à sortir de France. Hein. Et alors, à chaque fois, on vous sort la même chose. C'est le feuilleton, c'est même pas la saison 2, ça doit être la saison 25. On vous dit, de toute façon, la France est un paradis, donc personne ne part, donc on va vous en prendre un peu plus, vous inquiétez pas, tout le monde va rester. Mais les gens qui disent ça, je veux dire, excusez-moi, mais ça c'est du fantasme. Et à chaque fois, on vous dit, mais non, il n'y a pas d'exil fiscal. Bah écoutez, c'est pas compliqué. Moi, je rencontre des chefs d'entreprise quasiment toutes les semaines. Mais des gens qui ont quitté la France, qui quittent la France, qui se préparent à quitter la France, j'en rencontre toutes les semaines. Et ça, c'est pas du rêve, c'est du concret. Et ils vont tous au même endroit. Je veux dire, vous allez à Milan en ce moment, ça parle beaucoup français dans les rues.
C'est marrant, c'est l'Italie.
C'est bizarre.
Si
vous voulez, c'est pas pour la cuisine italienne qu'ils vont là-bas. Hein.
Bon,
même si elle est bien.
Donc voilà. Donc à chaque fois, on vous dit ça, mais ceux qui vous disent ça, et monsieur l'a très bien démontré, excusez-moi, ne raisonne pas en économie.
Et là, on raisonne en politique,
c'est du dogmatisme. Et je veux dire que, comme en France, le succès est en suspect, il faut qu'on punisse les riches. Parce que, par définition, des très grosses fortunes, c'est de l'argent qui a été volé. Donc, comme c'est de l'argent volé, on va le punir. Et pour le punir, on va vous créer la taxe, machin. Ouais. Sauf que, on va tuer le petit cheval.
On prend un exemple, hein, dans l'actualité, on est en plein Vivatech, il y a le fameux Arthur Menz que tout le monde connaît. Dans certains cas, ça inclut l'outil professionnel. On n'avait jamais osé franchir ce cap avec l'ISF d'avant. Imaginez quelqu'un comme Arthur Menz qui a probablement un patrimoine qui aujourd'hui avec Mistral AI dépasse les 100 millions d'euros. Ben, moi, je peux vous assurer qu'il n'a pas 100 millions d'euros en cash. Hein.
Non.
Ça veut dire que vous vous trouvez dans la situation où pour verser le cash au moment des impôts au fisc, parce que c'est bien du cash qu'il faut verser au fisc, vous allez céder des parts de votre entreprise petit à petit. Enfin, la mort du petit cheval, c'est une arme de destruction massive de l'outil productif.
Ou alors, vous allez ne plus investir dans l'entreprise et verser juste des dividendes pour les donner au fisc qui va faire une prestation sociale ou une subvention à je ne sais pas qui, improbable, qui supprimera d'ailleurs 5 ans après. Et puis voilà.
Vous ne serez pas surpris de voir que la proposition de loi au Sénat aujourd'hui est défendue par 2 écologistes, Eva Sas et Clémentine Autain, avec l'approbation sans réserve de Sophie Binet de la CGT.
Je pense que
le ton est donné. 26. Bercy prépare un truc. Attention, c'est pas ça. Voilà, il y a eu la CDHR en 25, surtaxe sur les hauts revenus. Alors on a dit, ouais, mais on va faire autre chose, c'est exceptionnel, donc ce sera exceptionnel. Mais du coup, il y a un outil, une taxe anti-optimisation, dont les échos donnent pas mal de détails aujourd'hui. Alors, ce sera cette fois-ci les patrimoines. On va taper les patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros net. Ça devrait toucher 60 000 foyers fiscaux. L'outil professionnel ne sera pas inclus dans la taxe anti-optimisation. On pourra y sortir les œuvres d'art, on pourra y sortir les forêts, on pourra y sortir les actifs qui entrent dans le pacte Dutreil à hauteur d'une exonération de 75%. On pourra y sortir des parts minoritaires que l'on détiendrait dans une entreprise à la condition que ces parts pèsent au moins 50% de la base taxable et qu'elles soient détenues plus de 6 ans. Et on pourra sortir 30% de la valeur de la résidence principale. Ça vous rappelle rien, ces éléments constitutifs d'un impôt? C'est l'ISF.
C'est l'ISF.
Absolument.
Voilà. On confirme.
Absolument. Vous confirmez que c'est l'ISF?
Oui.
Bon, on a tout dit. Bon, alors la CDHR devait rapporter 2 milliards d'euros, on n'est pas sur 20. Visiblement, on se dirige plutôt vers 1 milliard et demi, c'est à peu près le montant qu'on aimerait avoir avec cet outil anti-optimisation.
Bon, si je comprends bien, il s'agirait de dire qu'il faut que vous payiez 20% d'impôts, sous-entendu, d'impôts sur le revenu.
Alors, c'est l'idée de jamais être en dessous de 20.
Alors, c'est vrai que si l'on compare au prélèvement forfaitaire unique. Le prélèvement forfaitaire unique est de 30%, qui se décompose en deux parties, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17% de prélèvements sociaux. Donc on laisse les prélèvements sociaux, ça veut dire que vous êtes en train de tuer le prélèvement forfaitaire unique, qui était justement de mettre à 12,8% le prélèvement sur l'impôt sur le revenu. Vous dites, je le remonte à 20%.
L'impôt sur le capital.
Voilà, l'impôt sur le... Et après ça, ben, vous avez immédiatement, vous n'avez pas compté de nouveau l'ISF, l'impôt sur les sociétés. Si j'ajoute l'impôt sur les sociétés, de fait, sur ces revenus-là, on a payé 25% plus 12,8%. Pardonnez-moi, je ne mets pas les taux composés, n'est-ce pas ? On est donc à quelque chose qui tourne autour de proche de 40%. On est donc déjà à 40%. Et bien évidemment, ce 40%, de nouveau, va porter sur des rémunérations qui, en partie, correspondent à la création de valeur et, en partie, correspondent simplement à une prime de risque au cas où... Si je retire la prime de risque de nouveau, je suis plus à 40%, je suis à 80% ou quelque chose comme ça. Et donc, je ne suis pas à 51,6%, ce qui est prélevé sur les revenus, où il n'y a pas d'autres prélèvements fiscaux. Donc, il y a un vrai problème. Et bien évidemment, de nouveau, on va tuer, et on va tuer tous les fonds qui investissent dans la tech. En tous les cas, ça veut dire il faut que l'investissement... et que l'argent et le capital viennent des États-Unis pour pouvoir s'investir en France, ce qui, pour le moment, honnêtement, est la stratégie la plus risquée que l'on puisse imaginer, et qu'il n'y ait pas de capital domestique pour la tech.
J'adorerais mettre Sophie Binet face à Philippe Trenard. Je peux vous assurer que ce serait redoutable, sauf que ce que je sais, c'est qu'en termes de pénétration dans les oreilles de l'opinion, le message de Sophie Binet serait beaucoup plus simple que le vôtre. Et donc, plus c'est simple, plus ça passe.
Bon. Oui, oui.
Mais il y a un moment, il faut bien admettre qu'on a besoin d'un peu de complexité pour décrire.
Pardon, oui, je suis désolé. Désolé, il faut refaire quelques calculs et rappeler éléments de base.
Mais vous savez très bien que l'idée facile a besoin de trois mots pour prospérer, tandis que l'idée compliquée et la démonstration, il en faut 300. Ça porte un nom d'ailleurs, je crois, cette espèce d'opposition. On marque une pause, j'ai 1 minute 30 de retard, on se retrouve dans un instant. Je vous promets, on referme la fiscalité, c'est fini.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Philippe Trenard, professeur honoraire au CNAM et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Bon, j'ai eu pas mal de réactions, j'en ai gardé une. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. C'est John qui m'écrit: avoir des riches qui ne créent pas d'emplois et ne paient pas d'impôts n'a aucune utilité, il faut les taxer au maximum. Moi, je pense que sur les 1800 là dont il est question, si on reprend Zucman, c'est quand même des gens qui doivent posséder des grosses boîtes, investir assez massivement et créer pas mal d'emplois. Et même s'ils ont peut-être un taux moyen à 27%, les sommes versées avec ces 27% sont copieuses.
Il est probable que la majorité des emplois français dépendent d'eux.
Il y a des chances. On ne va pas mettre des noms comme on met toujours.
Oui, c'est toujours les mêmes
qu'on met en pâture. Est-ce que c'est le moment de l'Europe, Nathalie Janson? Est-ce que l'euro a un rôle, une opportunité historique au moment où certains commencent à imaginer que la puissance dominatrice du dollar pourrait disparaître?
Alors oui, le thème traîne depuis déjà quelques années et est accentué par effectivement les affres de, enfin tout ce qui se passe autour de Donald Trump. Donc puisqu'effectivement il y a eu des obligations, des émissions d'obligations qui ont été un peu qui n'ont pas eu des succès comme d'habitude. Donc on se dit tiens, c'est vraiment peut-être le moment de l'euro. Alors il faut savoir que cette fameuse dédollarisation qu'on annonce depuis quelques temps, donc déjà elle est quand même pas très nette dans les chiffres, mais ce qui est intéressant, ce qui est sorti hier d'une petite étude, d'un petit article dans le Financial Times, c'est qu'en tout cas, en termes de réserves dans les banques centrales, eh bien, mauvaise nouvelle pour l'euro, il est passé en troisième position derrière l'or.
L'or, la réserve en or, dépasse les réserves en euros.
Exactement, donc c'est la première fois, il faut quand même remettre en compte, c'est quand même assez significatif, hein, puisque c'est la première fois depuis qu'on a abandonné Bretton Woods qu'on atteint à nouveau ce pic de détention d'or.
Qui lie quand même à la valorisation de l'or.
Alors, pas seulement en termes de tonnage.
En termes de
tonnage. Nous sommes dans le même tonnage que dans les années 60. Donc, il faut quand même se le dire. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, que ce n'est pas le genre de chiffre que je retrouverai facilement. Voilà, c'est 36 000 tonnes. Nous étions à 38 000 dans les années 60. Donc, vous voyez, on est quand même très, très proche. Donc, déjà.
Détenus par les banques centrales.
Détenus. Alors là, je parle effectivement, ouais. je ne parle pas d'autre chose. Ici, le point était sur les banques centrales. Et ce que ça révèle, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est plus pour des. C'est pas tellement pour des soucis de préoccupation d'inflation, mais réellement des problèmes de géopolitique et de protection contre, en fait, l'arme d'avoir des sanctions. Donc, ce sont toutes les banques centrales ou les pays potentiellement sanctionnables ou sanctionnés, en fait, qui ont cette politique de s'éloigner du dollar.
La Russie avait commencé après la Crimée.
Exactement, on pense à l'Iran, enfin voilà. Et effectivement, la Chine est donc en première ligne dans cette dédollarisation, puisqu'elle est passée, d'ailleurs, une autre information intéressante, elle est passée avec un pic de détention d'obligations américaines qui passait le 1000 milliards dans les années 2010. Et elle est devenue, là récemment, c'est l'Angleterre qui est devenue le deuxième pays détenteur après le Japon, et la Chine lui passe derrière.
Ah oui.
Donc effectivement, on a des mouvements, mais des mouvements qui sont très géopolitiques. Ça ne veut rien dire quant à l'affaiblissement du rôle du dollar sur les marchés, par exemple, puisque, voilà, je vais encore le répéter, SWIFT est un système de paiement international basé sur le dollar, et la majorité des activités financières sont référencées en dollars. Donc, effectivement, on a bien un mouvement de dédollarisation qui s'observe dans la stratégie des banques centrales pour des raisons tout à fait géopolitiques et qui se comprennent et qui sont intéressantes à analyser. Néanmoins, dans la partie concrétude, on s'aperçoit que dans les tuyaux, dans la tuyauterie des paiements, eh bien, le dollar, il est toujours là et visiblement, on n'a pas l'air de s'en débarrasser. D'autant plus, là, je vais rajouter ma casquette de crypto, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quand même la forte expansion des monnaies stables, des fameux stablecoins, et c'est le stablecoin dollar qui est largement dominant. Puisque je vous rappelle qu'il occupe 98% du marché, que l'euro représente même pas 1% de ce marché. Donc moi, la dédollarisation, je veux bien, mais je ne la vois que de façon géopolitique dans les banques centrales.
J'ai bien compris. Et Patrick Artus avait expliqué à cette même place il y a quelques semaines que c'était bien gentil de parler de dédollarisation, mais alors maintenant vous me citez l'alternative au dollar. Et
exactement. Bah si.
Oui, Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose.
Je ne suis Trénard. Pas tout à fait d'accord.
Ah bah, allez-y.
La dédollarisation dont nous parlons n'est pas quelque chose que nous constatons dans les faits. Ça, nous sommes d'accord. La dédollarisation dont nous parlons, c'est quelque chose qui devrait arriver. Et c'est vrai, je pense que le gouverneur a raison, nous sommes à un moment historique. Ce moment historique, c'est la crise de confiance qu'il y a eu dans le dollar. C'est une crise de confiance unique, elle est unique depuis 1945. Il y a juste eu le moment où, là, on a arrêté la convertibilité hors du dollar. Ça a été un moment très bref. Et après ça, les Américains ont fait 10 ans d'efforts pour recouvrer cette capacité. C'est vrai que tout est en dollars. Et vous avez cité SWIFT, c'est-à-dire nous ne payons que par un système qui est un système dollar et articulé au dollar. Mais l'euro a une opportunité. Pourquoi ? Parce que Trump, par ses différentes actions imprévisibles, ses allers et retours, est en train de saper la crédibilité sur le long terme des États-Unis. Le problème de la crédibilité, c'est que vous mettez 20 ans 30 ans, 40 ans pour l'acquérir et quelques jours pour la perdre. On ne reviendra pas en arrière demain sur ce qui s'est passé. Certes, le dollar est remonté parce que les marchés veulent croire dans le dollar. Ils veulent croire que le monde ne va pas changer. Ils veulent croire que Trump va faire finalement une politique raisonnable par-delà toutes les agitations. Mais reste derrière le vrai problème, c'est qu'il a été possible tout d'un coup, d'ébranler, voire quasiment de casser le système international. Donc, l'euro doit s'engouffrer. Mais pour s'engouffrer, il faut quelques conditions. Il faut bien accueillir les capitaux. Ça nous renvoie à la discussion que nous avions il y a quelques instants. Il faut beaucoup de stabilité et il faut être aussi, devenir un des piliers de l'ordre international, c'est-à-dire d'un ordre, même s'il est limité géographiquement, qui assure une capacité de paiement. Et certainement, il nous faut penser à des substituts à SWIFT pour l'avenir, afin de ne pas être nous-mêmes dépendants d'un diktat américain qui pourrait nous être extrêmement défavorable.
Dans les éléments que vous citez, Philippe Trenard, certains sont un peu palpables aujourd'hui. Je me souviens de ce que nous avait dit Agnès Benassi-Kiré qui rentrait des printemps de Washington, FMI Banque mondiale. Parmi les trois éléments qu'elle avait retenus, c'est d'abord que le système financier résistait. Il y a un élément, je ne sais plus duquel était... c'était l'incertitude le premier, et le troisième, c'était l'envie d'Europe.
Oui. Non, mais il y a une envie. Ça, un investisseur aime la diversification, quelque part.
Oui, non, mais...
Voilà, mais c'est un avantage. Maintenant, à l'euro de jouer.
À l'euro de jouer. Laurent Vronsky.
Alors, moi, je trouve que la discussion est intéressante parce que moi, je vois la dédollarisation depuis 30 ans. Mais concrètement. Et quand, donc... En 93, nous, on était présents à 90% sur le marché hexagonal hein, et 10% à l'export. Et quand on a fait ce virage massif pour se diriger vers l'export, je me tiens très très bien. Je veux dire que le risque de change était quelque chose d'important. Je veux dire, il y avait toutes sortes d'instruments auxquels il fallait souscrire pour se prémunir contre le risque de change.
Mais ça a toujours existé, Laurent, le fait d'essayer d'anticiper le risque de change.
J'entends bien. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas négocier. C'est-à-dire que si, dans certaines zones, on vous disait « moi, je vous paye en dollars », il y avait zéro discussion. Hein. Et alors, on avait à peu près une liste de 4 à 5 devises. Eh bien, aujourd'hui, les règlements en dollars, mais c'est même pas 0,01%. Et on exporte 90% de notre production en dehors de la zone euro. Les seuls qui nous imposent le dollar, ce sont des administrations américaines. Ce sont les seuls. Aujourd'hui, vous dites, parce qu'il y a marqué compresseur Hervor, il n'y a pas marqué banque Hervor, on n'est pas une salle de marché. Ce n'est pas notre rôle de prendre des risques de change. Donc on dit à nos clients, c'est de l'euro. Il y a zéro discussion. Personne ne nous propose du dollar. Alors qu'à l'époque, pour les petites devises, on nous disait, bon d'accord, alors je ne vais pas vous payer en roupies, mais je vais vous payer en dollars. C'est fini ça. Donc, ce que je vois à travers ma petite lorgnette est très différent.
Oui. Alors là, j'aurais dû nuancer. Il est vrai que du côté règlement, il y a eu une augmentation de la facturation en euros, mais en fait, le rôle financier du dollar est nettement supérieur. C'est-à-dire tout ce qui est les mouvements financiers.
Absolument.
Et là, je pense que c'était aussi la remarque de votre invité quand il disait qu'elle n'était peut-être pas encore là, la dédollarisation, c'est qu'en fait, on est très en retard. C'est-à-dire que le marché des capitaux européens, effectivement, ne peut pas prendre la suite tout de suite maintenant celui américain. Et c'est là où est l'enjeu, parce que c'est là où les volumes de transactions sont les plus importants. Mmh. Mais oui, je rejoins. J'imagine bien qu'entre un franc et un euro, on a gagné en termes d'imposer sa monnaie.
Incroyable.
Mais le gouverneur a d'ailleurs dit qu'il fallait pour cela avoir un marché des capitaux
avec
développé
avec
en clairement. Europe. Et de même, c'est la question du système de paiement, c'est de la question de SWIFT. SWIFT a été redoutable, c'est une réaction à l'attentat du World Trade Center, mais ça a été une réaction redoutable. D'ailleurs, dans les sanctions, honnêtement, les sanctions sur les exportations, ça fait mal, mais ça ne joue pas beaucoup sur la Russie. SWIFT, ça joue.
Ça joue, bien sûr. Exactement.
Avançons. François Villeroy de Galhau, le gouverneur, comme vous dites, Philippe Trenard. Alors lui aussi, c'est à peu près tous les deux jours maintenant que quelqu'un nous dit un jour le mur, on ne sait jamais, vous savez, on s'approche, et puis un jour on est dedans, et puis les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres. Et puis on a commencé l'émission en expliquant que personne n'était à l'abri du défaut. Alors il le dit avec ces mots. Attention à l'arrivée au risque d'une prise en ciseaux entre les prêteurs et les besoins en dépenses publiques. Amélie de Montchalin a dit « Oula, si on ne fait rien, attention, le FMI sera à Paris ». On a décrypté avec Christian Parizeau ce que serait vraiment une intervention des institutions extérieures en cas de tension de marché sur la France. Ça viendrait de la BCE et des outils BCE et pas du FMI. Est-ce que ça commence à vous inquiéter, l'idée que, ce qu'a dit Robin Rivaton il y a quelques semaines ici, que la France vive un moment Liz Truss en 2025, c'est possible.
Non, c'est tout à fait possible. Ah. D'ailleurs, vous voyez dans les chiffres des probabilités calculées économiquement à partir des CDS, etc.
Les contrats d'assurance, les produits de marché d'assurance.
Oui. Vous voyez que le risque de défaut de la France est en train de s'envoler et est supérieur à celui de l'Italie, à celui de l'Espagne, à celui du Portugal. Une situation absolument unique. Donc nous avons versé dans les 50% des États qui sont dans la région européenne, où il y a quelques pays de l'Est, etc., qui sont à risque. ce qui n'est pas du tout une bonne situation. Ça veut dire que s'il y a un quelconque choc financier important, vous êtes les premiers vendus. On dit les 50% qui sont un peu bancales, on va les vendre. Et deuxièmement, on voit bien qu'il y a eu un choc sur les États-Unis, un choc de crédibilité. Hein, on voit ce thème des vigilantes qui est revenu, qui fait la une de nombreux journaux anglo-saxons. Mais ce qui est très grave, c'est que s'il y a un problème sur les États-Unis, ça va être un problème sur l'ensemble des dettes souveraines. À l'heure actuelle, c'est pas le problème simplement des États-Unis, c'est le problème des dettes souveraines. Et parmi les dettes souveraines, les plus élevées seront pointées du doigt, dont la France. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une crise s'il y a un retrait. Alors vous allez me dire, mais au fond, une crise de cette nature, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un envol, naturellement, des taux d'intérêt. Évidemment. Ce qui fait que ça nous coûte plus cher, déjà que ça nous coûte plus cher que l'éducation, que la défense, etc. Ben, ça nous coûtera beaucoup plus cher, ça nous coûtera autant que l'éducation. Premier point. Mais surtout, le problème des marchés, c'est qu'à ce moment-là, quand il n'y a plus de confiance dans la dette publique, il y a un lien économique entre dette publique et crédibilité des politiques monétaires dans la lutte contre l'inflation. Parce qu'il n'y a qu'un moyen pour rendre la dette publique soutenable, c'est l'inflation. Donc immédiatement, vous allez avoir une spéculation sur l'inflation et on sait que ces mécanismes sont par eux-mêmes inflationnistes. Donc nous allons avoir un énorme problème avec une banque centrale devenant un peu incompétente dans la maîtrise de l'inflation, enfin dans la capacité à maîtrise de l'inflation, donc avec une envolée des taux d'intérêt et de l'inflation, la situation la plus catastrophique qu'on puisse imaginer.
Jusqu'à imaginer la situation, le prix à la gorge, avec l'obligation politiquement de prendre des choix ultra-violents et ultra-rapides à la grecque.
La Grèce, c'est-à-dire on ne veut pas vous financer du tout, à quelque taux que ce soit, et donc vous devez rétablir l'équilibre en l'espace de 15 jours.
Et bien là, on vous met 2-3 points de TVA, on vous, au minimum, gèle les pensions, gèle le SMIC.
En général, c'est les retraités qui prennent le plus.
Là, vous réduisez de 20-30% les prestations sociales.
Le tableau, oui, Laurent Vronsky.
Je trouve que c'est intéressant, on peut faire un parallèle avec
l'ISF. Il y a deux ans, on disait jamais ça n'arrivera.
Oui, justement, on peut faire un parallèle avec l'ISF. D'accord ? C'est-à-dire qu'on vous dit,
allons-y.
Il n'y a pas d'exil fiscal. D'accord ? On joue à se faire peur, tout le monde va partir, etc. On vous dit aussi, alors on dit, la France est un pays très riche, il n'y a pas de sujet, on a la dette la plus demandée au monde, la preuve, on en a émis pour 3700 milliards, c'est formidable. Donc écoutez, on va éviter les effets de manche, parce que demain sera comme hier. Ça, c'est les demi constitutifs de la situation dans laquelle nous sommes. Et je le répète, pourquoi la France épargne tellement ? Mais c'est parce que les gens ont peur. Moi, je le sens tous les jours, je n'ai pas besoin de lire dans les journaux. Il n'y a jamais eu autant. Alors, l'incertitude, c'est le mot, on va dire, c'est le mot chic. Mais les gens se posent de vraies questions sur leur avenir. Et là, à force de dire en boucle que, en clair, la France est le pays qui épargne le plus, les gens, ils ont compris, ils n'ont pas besoin de sortir de Polytechnique. Si on dit, on va nous faire les poches. C'est ça que les gens se disent. Les gens se disent, il n'y aura pas de retraite pour moi. Donc, ceux qui sont à Checkpoint Charlie, c'est-à-dire ceux qui sont à la limite, là, dans les 61-62, se dépêchent de partir à la retraite parce qu'il reste encore une petite part du gâteau. Donc, de dire, la France est un pays riche, avec un taux d'épargne extraordinaire, avec une dette que tout le monde s'arrache et un consentement à l'impôt, jamais il n'y aura de chaos technique, je pense que c'est inconscient. Parce que les choses arrivent. Je veux dire, je vais casser ma longue barbe, ça fait suffisamment longtemps que je traîne mes guêtres dans l'économie. Le nombre d'entreprises réputées infaillibles qui allaient survivre à tout,
oui, c'est vrai, ça,
est énorme, et des noms extrêmement prestigieux. Donc oui, ça peut arriver. Non, on n'est pas là pour essayer, si vous voulez, de défendre des avantages. Je veux dire, je pense que la situation est vraiment grave. Et dernier point en ce moment, je veux dire, ou alors j'ai pas bien compris, mais là on a des économistes, mais je crois que la France n'est pas la seule à émettre de la dette.
Non, et l'Allemagne va bien.
Ce qui veut dire
l'Allemagne va revenir.
Ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui vont émettre de la dette. Bienvenue dans le monde de la concurrence que des gens comme moi connaissent matin, midi et soir. C'est-à-dire que peut-être que la dette française, avec ses fondamentaux qui ne sont pas si extraordinaires, ne sera plus aussi convoitée qu'elle l'était. Et là, comment on va le vendre, le papier ?
Eh, c'est chaud.
On va faire la poche aux riches, mais il n'y aura pas assez de riches.
On l'aura déjà fait.
Nathalie Janson. Non, le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens, et notamment qui sont venus ici, qui me disent, mais de toute façon, vu les âneries sur âneries qu'on sort à chaque budget, tout en promettant la Lune dans les premiers mots de discours, et finalement avec des désastres à l'arrivée, il nous faudra un bon coup de surin dans le dos pour qu'on se mette à faire le job.
Oui, parce qu'en
ça, c'est le grand argument.
Oui, tout à fait, parce que ceux qui le défendent, enfin, ceux qui effectivement disent qu'en fait, il n'y a pas de problème, en plus, ils regardent le Japon en disant, bah regardez.
Oui, c'est toujours ça.
Voilà,
250%
le Japon, il n'y a aucun problème, 260%. Ils sont, de toute façon, ils ne feront pas défaut parce que leur population, j'ai eu ce débat encore il y a assez récemment, parce que de toute façon, ils épargnent beaucoup. Mais l'épargne privée, ce n'est pas l'épargne publique, à ce que je sache. Et donc, à moins de supposer qu'effectivement, on va leur faire les poches, moi, je ne vois pas en quoi. Je veux dire, c'est la désirabilité de la dette qui prime.
Nathalie, ajoutez que notre épargne, c'est du remboursement d'un prêt au logement, d'un endettement.
Oui, en plus.
C'est une drôle d'épargne, c'est pas une vraie épargne.
C'est effectivement
un désendettement.
C'est un désendettement. Et donc, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc, se comparer au Japon pour dire on va bien, bon, d'accord, ok. Non, je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Surtout qu'ici, c'est bien la question de la désirabilité de la dette. Donc, en effet, si d'autres dettes plus désirables émergent, ben voilà. Surtout que nous, contrairement à d'autres pays, nous sommes donc ceux dont la dette est la plus détenue à l'extérieur, hein, si on compare l'Italie, l'Espagne, le Portugal. C'est ça. Et on est donc celui qui est le plus en concurrence, puisque nos résidents nous aiment, mais pas tant que ça, puisque on n'est pas, voilà, on n'est pas comparable à d'autres. Donc, je trouve effectivement le discours très sympathique et très fleur bleue par rapport en fait à la situation qui pourrait effectivement déraper quand on regarde les chiffres, en tout cas.
Je me souviens, un jour, on avait eu le débat, et Simon, il ne comptait pas un défaut de la France. Il ne s'en est pas produit depuis les assignats en 1793, ça n'arrivera pas. Bon, oui, Philippe,
précision pour aller tout à fait dans le sens de Nathalie, c'est qu'en plus, la dette japonaise, en face de la dette japonaise, il y a des actifs, surtout des actifs recouvrables. Nous avons bien une dette nette de ces actifs qui est plus faible que les 116% actuels, mais malheureusement, nos actifs ne sont pas recouvrables. C'est des remboursements sur la sécurité sociale, par des trop payés de gens qui sont sans revenus, etc. Donc c'est essentiellement non recouvrable. Au Japon, c'est recouvrable en contenu. Et c'est recouvert d'ailleurs régulièrement. Donc la notion de dette nette japonaise
c'est pas la même nature.
Est absolument pertinente.
Oui, mais la dette japonaise est une dette très intérieure. Oui. C'est une grande différence. Nous sommes détenus.
Et nous sommes détenus parce que nous sommes détenus. Le taux de détention par l'extérieur, nous avons un chiffre de taux de détention qui est un chiffre de petits pays,
exactement,
pas de grands pays. Tout simplement
pays,
parce que nous ne générons pas le capital en France qui veut s'investir en France, domestique pour s'investir en France. Donc là, on a un vrai problème. D'où on revient d'ailleurs à notre premier entretien sur la taxe Zucman.
Faisons la taxe Zucman, ça va tout régler, n'est-ce pas? On va il est 5 minutes 30, on va terminer avec vos réactions par rapport... Alors, j'avais dit, on ferme la séquence fiscale à la mi-émission.
Et en fait, vous la rouvrez.
Alors, je vais dire, là, c'est la hausse d'impôts qui ne dit pas son nom. Donc, ça a été la sortie de début de semaine d'Amélie de Montchalin qui dit, bon, bah, écoutez, service à la personne, c'est 6,8 milliards tous les ans. Bon, il y a des trucs vraiment, vraiment utiles qu'on va garder, la garde d'enfants et l'aide aux personnes âgées, mais alors après, on va probablement faire un peu le ménage sur pas mal de métiers qui sont éligibles aujourd'hui à cette niche fiscale d'emploi à domicile. Le jardinage, l'assistance numérique, peut-être le soutien scolaire, je ne sais pas. Il y a 26 métiers aujourd'hui éligibles et globalement, deux resteraient vraiment en tête de gondole et les autres, on raboterait, voire on les supprimerait. Bon, allez, Laurent, ça vous a inspiré quoi cette séquence? Rien n'est décidé, rien n'est décidé. Mais on parle quand même de 3,3 millions d'employeurs, dont 20% d'ailleurs ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, car il s'agit d'un crédit d'impôt.
Alors moi, c'est un sujet auquel je réagis très vivement, parce que étant industriel, nous, on travaille avec nos mains. Hein, donc on est très sensible, si vous voulez, à ce qui peut se passer pour des gens qui ont un savoir-faire manuel. Bon. Il faut revenir aux genèses des avantages. On n'a pas, si vous voulez, distribué des avantages aux riches pour qu'ils aient un majordome et trois soubrettes chez eux. C'est pas ça l'idée. À l'époque, il y avait un maximum de travail au noir sur ces métiers, mais qui touchaient beaucoup de métiers, les métiers du bâtiment, par exemple, hein, qui touchaient certains métiers de la mécanique. Et donc, on s'était dit, c'était intelligent, mais tous les gens qui étaient dedans le savaient. On avait dit, mais si au moins, nous, on voudrait bien payer les gens normalement, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un cadre, je dirais, qui soit fiscalement incitatif. Mais on ne nous fait pas de cadeaux. Et donc, on a sorti, si vous voulez, donc, ces avantages, mais finalement, c'est une régularisation. Et là, comme par hasard, les esprits éclairés ont dit « Ah oui, mais c'est incroyable, le travail au noir est en train de baisser massivement. » Ben, c'est pas compliqué. Là, c'est un vrai choix de société. Si on veut de nouveau retrouver des niveaux de travail au noir massifs, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, autant le faire bien. On enlève tous les avantages, même les gardes à domicile, les machins, les bidules. Vous allez voir, l'économie sera florissante parce qu'il y a des gens qui n'ont juste pas le choix. Il y a des gens qui emploient du personnel à domicile. Je suis désolé, ils n'ont pas tous, en majorité, des hôtels particuliers dans le 16e.
Mais non, vous avez 20% des employeurs particuliers ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu.
Ça veut dire qu'il y a un quart de la population, et on le sait tous. Les femmes divorcées, c'est les gens, c'est les personnes âgées, c'est les gens comme ça. Donc, c'était une mesure relativement intelligente, ce qui devient rarissime, comme le bon sens. Je veux dire, ne revenons pas, n'incitons pas les gens à revenir dans la zone grise et la zone noire.
Alors, chaque fois qu'on a touché aux emplois à domicile, on a eu des effets travail dissimulé, pour ne pas dire travail noir, ça énerve certaines personnes de travail noir aujourd'hui. On a eu des effets, mais presque 24 heures après, on voyait effectivement le travail déclaré qui reculait très sensiblement. Sur ce sujet, alors Nathalie et puis Philippe.
Oui, moi je le prends souvent comme exemple justement pour introduire lors des premiers cours d'économie pour parler de l'incidence fiscale et de montrer qu'en fait effectivement la taxation va avoir un impact sur les décisions et les décisions d'emploi. Et je trouve ça, enfin je veux dire, c'est l'exemple type. Il y en a vraiment, voilà, celui-là, le contrôle des loyers, c'est vraiment les caricatures de ce qu'il faut éviter de faire si on ne veut pas tomber dans un système effectivement avec beaucoup d'économies dissimulées, enfin d'une activité avec une forte dissimulation du travail. Donc je ne vois vraiment aucun intérêt, ou à moins qu'effectivement on se penche sur la question de savoir comment on peut avoir un système fiscal qui ne marche pas sur la tête, parce que c'est vrai que de faire des niches parce que en fait la fiscalité n'est pas au bon niveau, c'est peut-être pas terrible, mais en tout cas c'est sans doute pas la bonne solution.
Bon, allez Philippe Trénard, pour terminer le tour de table.
Juste pour terminer et pour comment dirais-je, pour ajouter, c'est une très mauvaise solution, parce que tout simplement, quel a été l'objectif de cette mesure à l'origine?
Baisser le coût du travail et éviter le travail dissimulé.
On a un coût du travail qui est très élevé et que pour certaines catégories dépasse leur productivité. Si dépasse leur productivité, ça veut dire que vous les employez pas. Voilà.
C'est pour ça qu'on a mis les cotises à zéro, voilà. À un SMIC.
Donc, quand on va remettre en cause cela, la conséquence, c'est que ça va se partager entre le travail au noir et le chômage. Alors, ça arriverait à un excellent moment pour le chômage, au moment où le chômage va remonter. Tout le monde prévoit une remontée du chômage. Alors, c'est vrai, si ils veulent donner un coup de booster un peu la remontée du chômage, je trouve l'idée parfaitement bonne. Inversement, il faut savoir que c'est dans un pays comme le nôtre, c'est un moyen de maintenir une rémunération relativement élevée du travail non qualifié, tout en maintenant l'emploi du travail non qualifié. Et n'oublions pas qu'il ne s'agit pas d'un avantage fiscal, en fait, il s'agit d'une sorte de remboursement des taux de cotisation employeur qui sont quand même, aujourd'hui, historiquement élevés et qui sont les plus élevés au monde.
Et voilà. Et en plus, on dit 7 milliards, 6 milliards 8 de coûts, mais c'est du brut. Parce que quand l'employeur déclare, il a effectivement un retour de... Quand il a un retour de 100 euros de crédit d'impôt, en fait, il va verser 80 euros de cotisation.
Oui,
absolument. Bon, il ne les versera plus.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait sa vie, son œuvre, là, sur l'emploi à domicile. Ils sont géniaux, parce qu'il n'y a que des idées fiscales qui fleurissent de manière concrète. Après, il y a des grandes incantations sur les dépenses,
Et surtout qu'il n'y a rien de nouveau, en plus, c'est ça.
Non, ce qui est au fond dramatique, et on le voit dans l'expérience américaine, l'incapacité à trouver une vraie politique de maîtrise des dépenses rationnelle, raisonnable.
Nathalie Janson, Philippe Trénard, Laurent Vronsky, demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.